sont à gauche. Nous, puisqu'il s'agit des élections, on est un peu perdu. C'est, je crois qu'on a pris le musulman, le français musulman en otage. Merci.
Ok, donc cette question qui revient très souvent en ce moment, je vais essayer d'y répondre de manière simple. Je trouve que c'est insupportable de se retrouver dans une situation où on va dire aux gens « votez pour le moins pire ». Cette phrase-là, je m'y résous pas individuellement, je m'y résous pas en tant que responsable associatif, je m'y résous encore moins en tant que père de famille en disant « tiens, viens, on va voter pour le moins pire ». Ça veut dire quoi le moins pire ? Avec aussi une gauche de gouvernement, comme ils aiment bien s'appeler, qui nous explique qu'il faut faire barrage au FN. Mon ami, si tu veux faire barrage au FN, jette-toi sur la route. J'entends les déclarations de Marine Le Pen, j'entends les déclarations de ces hommes et ces femmes politiques-là. Ce n'est pas eux qui ont mis en place l'état d'urgence, c'est encore moins eux qui ont défoncé les 4000 plans innocents pour rien. Donc cette façon de dire aux quartiers populaires, aux personnes de couleurs différentes, de religions différentes, soit toi, de là où tu es, une minorité, capable de te décentrer pour venir protéger quand même mon establishment et la stabilité de mon pouvoir à moi, cette déclaration-là, elle est insupportable. Et aussi, la proposition politique qui consiste à dire « nous sommes moins pires que les autres », c'est la fin de la politique. Quand un parti ou quand un candidat, il en arrive à dire « vote pour moi parce que je suis moins pire que les autres », c'est terminé, il est en état de mort clinique sur le plan politique. Cela étant dit, est-ce que ça veut dire qu'il faut rester spectateur et ne rien faire ? La réponse, c'est non, absolument non. Il y a plusieurs choses dans les mois qui viennent qui sont importantes. D'abord, prenez vos cartes d'électeur. Il y a les élections présidentielles, et puis ensuite, les élections législatives. Et quoi que ce soit qu'on mette en place en termes de campagne, d'animation, d'interpellation du débat, ce sera comme des balles à blanc si vous n'avez pas vos cartes d'électeur. Donc ça, c'est une première chose. Deuxièmement, je m'intéresse moins à qui va devenir président en 2017 qu'à la manière dont il va le devenir. Dans quel contexte politique le débat va se faire. Et on voit que, à l'intérieur même des principales formations politiques, il y a des latitudes différentes. Et il y a une prime à l'islamophobie. D'accord ? Cette prime à l'islamophobie, c'est celle qui fait élire, qui fait choisir Fillon plutôt que Juppé, et qui, demain, peut-être à l'intérieur du PS, va faire primer Manuel Valls sur Benoît Hamon. Ça, on en sait. Mais on sait que pour l'instant, il y a une prime à l'islamophobie. Ça coûte pas cher et ça rapporte gros. Médiatiquement, ça permet de faire des best-sellers. Politiquement, ça permet de prendre des élections. Donc la question, c'est dans la manière de gérer nos discours autour de la campagne, nos mobilisations autour de la campagne, est-ce qu'on peut faire en sorte qu'il y ait une prime juste à la dignité humaine, que ce soit coûteux, y compris médiatiquement, d'avoir ce genre de discours. Il y en a quelques-uns qui en ont fait les frais pendant les derniers mois. Bartolone, en région parisienne, il perd les élections sur des mobilisations quartier populaire contre le racisme. Et je peux vous dire qu'il a bien senti passer. Il a bien compris le message. À l'intérieur des Républicains, des gens qui font 0,3%, qui ont compris à peu près que les pains au chocolat, ça ne paye pas pendant très longtemps. D'accord ? Donc le fait de démonétiser des candidats à l'intérieur de leur parti, de sorte que même ceux qui partagent leur idéologie se disent franchement c'est le mauvais poulain, vaut mieux miser sur un autre, ça envoie un message. Donc les conditions dans lesquelles va se dérouler l'élection et la manière dont les débats vont avoir lieu, ça, même sans voter, on a un mot à dire là-dessus. Et il y a plein de choses qui sont à construire. Vous voyez, on est une centaine ici. C'est deux fois plus que le staff de Manuel Valls au maximum de ses capacités. Et ils ne sont pas animés par une cause dans laquelle ils croient, et ils ne sont pas animés de bienveillance vis-à-vis les uns des autres. Donc ce que des gens, je ne pense pas qu'ils ont un talent particulier, sont capables d'accomplir, je pense qu'on est aussi capable de l'accomplir dans le bon sens, et dans le sens de la justice sociale, la fraternité, l'amitié entre tous les gens qui vivent dans ce pays. Et puis aussi, il y a des élections qui suivent, les législatives, puis ensuite les européennes, et ainsi de suite. Il va falloir à un moment donné avoir, je dirais, suffisamment d'appétit politique pour pouvoir concevoir des projets dans les régions, être ancré localement et considérer aussi que monter des associations, être capable de donner à ces associations un sens politique, au sens noble du terme, utile à la cité, participatif, ouvert et conscient des enjeux du temps qu'on traverse, ça aussi c'est une démarche réellement politique. D'accord ? Donc, c'est tout sauf le discours défaitiste de « venez, on reste en retrait, parce que ça ne sert à rien, on n'aura aucune utilité ». C'est tout sauf le discours de moindre mal, de « ah, finalement, le PS sera moins pire que la droite, qui sera moins pire que le Front National ». Ce discours-là, on n'en est plus au clash du tout. Mais c'est le discours de « même tout seul dans une salle, je viendrai et je vous mettrai en face de vos contradictions ». Donc, par exemple, il y a quelqu'un qui le faisait il y a quelques années. Lui, il est encore là, c'est un jeune, il est un peu moins jeune maintenant, il est étudiant en médecine, il est dans la région de Tours. Lui, il fait un truc, il va à tous les meetings politiques. Et en fonction du candidat, il prépare des fiches et il a une liste de questions. Et il ne passe pas une session ou une campagne politique sans les obliger à se déterminer par rapport à tel enjeu de son quartier, de sorte que même dans le simple affichage politique, on change de discours, on change ou on rééquilibre un petit peu ce qui est. Ce travail, vous pouvez le faire soit de visu individuellement en local, soit sur le plan politique, soit aussi sur le plan médiatique. Je prends l'exemple d'une dame qui est historienne, qui fait un travail tout simple, elle s'appelle Mathilde Larère, elle a un compte sur Twitter ou sur les réseaux sociaux, et elle, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est dit publiquement dans les déclarations politiques, elle fait un fact-checking, une vérification factuelle par rapport aux faits historiques. Donc quelqu'un parle de laïcité, la laïcité, la loi de 1905, c'est quoi? Quelqu'un parle de nos ancêtres les Gaulois, c'est quoi l'histoire de France et pourquoi est-ce que ça c'est une contre-vérité historique? Et ce travail, à son échelle que elle peut faire, il a une utilité au moins aussi importante que celle d'un militant ou d'autres d'entre nous ici. Donc la question qu'on doit tous se poser, mais qu'on s'est déjà posé un petit peu apparemment au niveau individuel, nous, de notre côté, c'est moi, Pierre, moi, Fantine, moi, Nasreddin, moi, Nicolas ou autre, qu'est-ce que moi je fais, quelle est ma contribution spéciale, d'accord, à ce débat-là, à ces enjeux-là. Et plutôt que d'être dans un siège défaitiste, de dire, voilà, comment on va retourner le jeu dans le sens positif, d'accord. Et si on arrive à faire ça, franchement, alors on se prépare aux années qui viennent, avec un pessimisme de circonstance, mais un optimisme raisonnable pour se dire, voilà, ok, il y a une situation problématique, venez, on change les choses réellement.
Merci.
D'autres questions ?
Bonjour. Je voudrais dire d'abord que j'approuve tout ce que vous avez dit dans toutes les interventions à la tribune, et je le dis en tant que juif, membre de l'Union juive française pour la paix, et membre de son bureau national. Alors, à Paris, nous avons participé à des réunions avec le CCIF, avec la Voix des Roms et avec la BAN pour constituer un mouvement antiraciste politique, au sens où vous l'avez dit actuellement. Et je suis d'autant plus motivé dans ce combat que tout ce qui arrive aux musulmans aujourd'hui, et quand j'étais prof en 2004 et que j'ai lutté contre la loi, contre le voile, je m'en étais aperçu immédiatement. En fait, c'est ce qui arrivait aux Juifs dans l'entre-deux-guerres, et sous Vichy, sous Pétain, et parfois encore de nos jours. Et donc, je me reconnais absolument dans votre combat. Et bien entendu, nous sommes une organisation juive, laïque, qui n'a rien à voir avec le CRIF. D'ailleurs, que je sache, le CRIF n'est jamais dans les luttes que nous partageons. Et je voudrais juste dire une deuxième chose par rapport aux actions. On est très nombreux ici, hein. C'est la première fois qu'on est aussi nombreux, il y a déjà eu des réunions comme ça, mais on n'a jamais été une centaine comme aujourd'hui. Et appeler aux actions concrètes, oui, c'est bien, mais je pense que ce qui manque, appeler à ce que chacun fasse à son niveau quelque chose, comme tu viens de le donner comme exemple, c'est bon, mais je pense qu'il manque quelque chose quand même de l'ordre d'un minimum d'organisation horizontale, de manière à ce que chacun se sente soutenu, hein, parce que parfois les gens... pas l'habitude d'aller agir seul, quoi, hein, dans des circonstances. Or, une centaine ici à Strasbourg, hein, c'est énorme. Si chacun d'entre nous pouvait compter sur d'autres pour mener telle ou telle action, riposter à telle ou telle parole, ou telle... Là, on est une force, hein. Comme il n'y en a pas d'ailleurs, il n'y a plus de force. Les partis politiques, c'est mort, hein. Et là, on est une force, et avec un bon combat. Donc moi,
j'appelle là les... Je vous appelle à essayer d'aider à organiser concrètement l'action au-delà de cette réunion publique pour qu'il y ait une suite. Dernière petite information, je dis aux gens qui sont ici que si vos amis n'ont pas pu venir, il y a rattrapage possible, parce que j'ai filmé en tant que lafeuillejoux.fr toutes les interventions, donc vous pouvez dire que ça peut se retrouver à partir de demain donc, sur lafeuillejoux.fr, un média indépendant.
Réagir de façon très concrète et constructive. Je pense qu'il y a une chose qui pourrait se faire assez simplement, c'est que chacun laisse son adresse mail et un partant, et qu'elle soit partagée ensuite par les organisateurs. De toute façon, est-ce qu'il y a une liste ouverte ?
Il y en a une, là.
Il y a deux.
Voilà.
Il y a deux possibilités.
Je pense que c'est très important de le signaler, parce que ce sont des outils qui ensuite permettent de constituer des collectifs et de vous amener, comme comme d'autres ont pu le faire, hein, découvrir en fait des activités avec des personnes qu'on côtoie dans une assistance, mais dont on ne sait pas qu'en fait on partage à la fois des orientations, des motivations et des questionnements. Je pense que c'est une manière assez simple d'agir. L'autre chose, pour aller dans le sens effectivement pour faire l'inverse de ce que nous avons fait en 2012. Puisqu'en 2012, nous avons effectivement participé à... je parle pour moi, je ne sais pas qui se reconnaît dans ça, c'est-à-dire qu'il a fallu voter contre. Non, pas pour. Or, en 2012...
Sarkozy-Hollande.
On a aussi voté...
Sarkozy-Hollande.
Alors, je parle pour moi, je n'ai pas voté pour Hollande. C'est bien comme ça. J'avais défini ma position en disant que j'étais dans une limite de la défection. Je savais très bien que mon vote était pris en otage. Je savais très bien que ce qu'il promettait ne serait pas réalisé. Je ne pouvais pas imaginer à quel point est-ce qu'il allait piétiner tout ce qu'il avait déclaré, hein, pour devenir le président de l'état d'urgence, de la déchéance de nationalité, des propositions brutales, bref, de la remise en place d'un état de sécurité, à tel point qu'on se demande si, au fond, il ne s'est pas complètement inspiré sans aucune, ce qu'on appelle le droit d'inventaire. Lui, il n'a pas fait avec Mitterrand de l'époque de la 4e République pendant la guerre d'Algérie, quand même. On se demande s'il n'est pas l'héritier direct de ça. Il s'appelle François comme lui, ça ne suffit pas normalement, hein, mais visiblement, il est dans une ligne de la mimétique. Mais absolu.
Le coup d'État permanent.
Voilà, donc, que lui-même critiquait d'ailleurs à une époque, c'est Mitterrand critiquait ça, et donc, là, l'a fait, voilà, il a réussi à faire. Donc, pour toutes ces raisons, et toutes celles que je n'avais pas pu anticiper, moi, je considérais que la philosophie de la défection consistait à ne pas céder à l'ensemble d'injonctions qui nous avaient été faites à l'époque. Donc, cette actualité-là, elle est encore plus forte. Mais comme le rappelait tout à l'heure Julia, et comme nous ne cessons de le constater au fil des mois et au fil des années, finalement les élections, ce n'est pas le cœur de cible de notre action. Puisque nous savons que les élections présidentielles n'ont pas intérêt actuellement à se centrer sur la problématique de l'antiracisme et du racisme d'État, sauf à vouloir se tirer une balle dans le pied. Donc, tout le monde va, parmi les candidats déjà annoncés et ceux qui vont continuer à prétendre que pour réaliser pleinement leur ego, après tout, ils pourraient bien devenir président, parce que visiblement tout le monde a une vocation à devenir président dans ce pays. N'hésitez pas, hein, si des fois ça vous démange un peu, vous pouvez y aller. Hein, c'est, après tout, vu les personnes insignifiantes qui vous infligent leur désir d'être président. Donc je pense qu'il y a quelque chose là qu'il faut parvenir à articuler et à faire entendre, qui est que la mascarade présidentielle ne marche plus, et que les actions qui sont initiées, elles prennent acte ou elles font avec le calendrier présidentiel, mais elles se projettent très au-delà. Avoir une perspective décoloniale aujourd'hui en France, ça ne se résout pas à adopter telle ou telle position pendant les élections présidentielles. Repolitiser ce qui a été méthodiquement, systématiquement et brutalement dépolitisé pendant des décennies, ça ne va pas se faire dans les 6 mois qui viennent. Nous avons fait ce que nous avons pu
dans des cercles finalement qui sont sans doute bien plus larges qu'on ne le pense. Hein. C'est juste que cette cartographie-là, pour le moment, on n'a pas en tête. Repolitiser, comme on a essayé de le faire, ça n'est pas quelque chose qui va, à un moment donné, trouver ça, la quintessence de sa réalisation dans tel ou tel candidat présidentiel et dans ce qui sera amené à dire. Mais il faut effectivement être parfaitement lucide sur les modes de pression qu'il faudra exercer sur les 10 candidats de façon à ce qu'ils prennent acte des responsabilités qu'ils ont selon qu'ils assument la nécessité d'une lutte au niveau de l'État contre le racisme ou pas. D'une lutte au niveau de l'État contre l'islamophobie ou pas. D'une lutte au niveau de l'État contre des lois qui sont des lois racistes, sexistes et liberticides ou pas. Et ça, ce sont des questions qu'on peut poser dès maintenant. Mais quelles que soient les réponses, il est douteux que cela se traduise par l'élection d'un candidat qui serait vertueux. Il n'y a pas de candidature vertueuse actuellement, si tant est qu'il y en ait, puis s'il y en avoir en politique, si la vertu était quelque chose qui était rentable, ça se saurait. Donc là, l'essentiel reste à imaginer effectivement des formes d'interpellation, des formes de confrontation qui ne fassent plus l'économie de caractère extrêmement direct et frontal. Hein, on n'en est plus à être poli ou polissé, étant donné la séquence qui vient qui continue d'ailleurs, hein, qui est celle de l'état d'urgence avec tout ce que ça implique, celle de la guerre qui est menée par un État contre une partie de sa population, à tel point d'ailleurs que ça finit par faire des dommages collatéraux qu'il n'avait même pas lui-même anticipé peut-être, et les guerres extérieures qui ont été rappelées tout à l'heure par Olivia, on n'en est plus à faire preuve de politesse. Il faut avoir un langage qui est parfaitement outillé, qui est un langage de la confrontation, de l'agression verbale, et des questions qui fâchent, qu'il va falloir poser.
Madame Taubira, je pourrais pas.
Madame Taubira, alors en fait, c'est intéressant ce que vous dites parce que je connais d'autres militants des coloniaux qui sont jeunes, qui sont pleins d'ardeur et qui sont optimistes, et qui, eux, pensent que ça aurait été la bonne personne. Moi, je ne préjuge pas, a priori, de ce qu'elle pourrait faire. Ce que je constate, c'est que sur un certain nombre de questions, quand elle était garde des Sceaux, elle n'a pas engagé les actions qu'elle aurait pu engager. Alors certes, tout le monde lui mettait des bâtons dans les roues à tout bout de champ, mais par exemple, l'abrogation de la circulaire Alliot-Marie contre BDS. Mmh. Elle était la seule personne au gouvernement qui pouvait le faire.
Ouais, elle l'a pas fait.
Et elle a pas. Elle a dit qu'elle avait mis en place un groupe de travail. Je me souviens, lors d'une réunion à Paris 8, un étudiant lui a posé la question, c'est ce qu'elle a répondu. On n'attendait pas de Christiane Taubira qu'elle mette en place cette mascarade du groupe de travail qui ne sert à rien, puisqu'elle ne fait jamais aboutir ses conclusions, vous voyez. Il y a des choses sur lesquelles on peut juger de. Elle a sans doute un courage politique, mais même si elle est partie du gouvernement sur la déchéance de nationalité, même si elle l'a fait savoir haut et fort, qu'est-ce qu'aujourd'hui elle est capable de proposer en termes de rupture radicale par
rapport à... Elle a quand même entériné la position d'Hollande sur Gaza, sur le bombardement de Gaza. Elle a refusé la libération de Georges Ibrahim Abdallah. Elle n'a pas examiné le dossier alors qu'elle était la seule à pouvoir le faire. Mmh. BDS, elle a tout entériné. Elle a tout entériné. Et de toute façon, voilà.
Mais sur les violences policières, alors qu'elle connaît le dossier par cœur de fond en comble et depuis très longtemps. C'est une des rares femmes politiques, ou c'est une des rares personnes dans le personnel politique que l'on connaît, qui suit ces affaires-là depuis 20-30 ans. Donc elle n'a pas une vision partielle ou un peu trop superficielle du fait qu'elle ne comprendra pas. Elle sait exactement ce qui se passe. Elle l'a suivi, y compris parce qu'elle avait un engagement politique par rapport à ça. Donc qu'est-ce qui se passe lorsque cet engagement politique s'amenuise au fil du temps, est laminé par l'exercice du pouvoir, et fait qu'à un moment donné, elle devient dans une position d'innocuité au sein de la gauche. C'est ça le problème, c'est qu'elle a été, d'une certaine manière, désactivée. Donc comment est-ce qu'aujourd'hui, Christiane Taubira peut redevenir un interlocuteur politique incontournable? Elle a la puissance d'influence, elle a une position morale. Alors après, on a des problèmes avec la morale, hein. C'est pas mon terme préféré, mais pas bon, elle a un carré pour le traitement des migrants,
oui,
et les morts, alors les enfants qui sont morts.
Oui, la position morale, c'est aussi peu frais. Hein. Ça mange pas de pain et ça ne coûte pas grand-chose. Le problème, c'est d'avoir des positions beaucoup plus politiques et qui sont parfois clivantes. Alors, tout le monde pense qu'elle est clivante. Est-ce qu'elle est en ça, finalement? C'est quelque chose, là, aujourd'hui, là, c'est moins une question de personne, une question de plateforme de politique. Et je pense que c'est au collectif qu'il faut parvenir à reconstituer et à restituer et à réinstituer dans sa position légitime. Plutôt que de faire des espèces de comparaisons entre tel ou tel qui serait le candidat providentiel ou la candidate providentielle, il me semble que ce qui est important aujourd'hui, c'est que les collectifs qui prennent la parole ne puissent plus être réduits au silence et que ce qu'ils proposent, ce qu'ils font valoir, hein, la voix qu'il faut entendre, deviennent incontournables dans l'ensemble à la fois des actions politiques et des confrontations, des rendez-vous politiques comme ceux que nous avons. Et ça reste à bâtir entièrement. Aujourd'hui, il n'y a pas cet espace-là. Il y a l'espace des partis qui est en ruine, ou qui est complètement pris en otage et qui se livre pieds et poings liés aux obsessions les plus extrêmes. Mais il n'y a pas d'espace alternatif. C'est ça, c'est subalternatif qu'il faut réussir à construire. Tout reste à faire.